Le journal Bruno Duvic, bonjour.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, les sanglots de Cécile Duflot. Je m'en veux de ne pas avoir parlé plus tôt. Elle témoigne comme victime au tribunal de Paris. Affaire Denis Baupin, accusation d'agression sexuelle, l'omerta en politique. Compte rendu d'une audience importante dans un instant. La grippe frappe fort et met les hôpitaux un peu plus sous tension. Déjà plus de 1000 morts cet hiver. Le vaccin n'est pas très efficace. 10 heures d'attente aux urgences de Châteauroux.
Normalement, on voit un médecin, mais quand on appelle plusieurs médecins et que tous vous répondent qu'ils ne prennent pas de nouveaux patients, on se retrouve dans l'embarras.
Reportage dans quelques minutes. La poignée de main glaciale entre Theresa May et Jean-Claude Juncker ce matin à Bruxelles. Le Brexit dans 50 jours. Le mur se rapproche. La glace qui fond au Groenland et en Antarctique. On est au bord du chaos climatique, dit une nouvelle étude. Les 4 dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées. L'invité de ce journal est la spécialiste de l'Antarctique, Catherine Ritz. Dans cette édition encore, Carlos Ghosn a-t-il fait payer son mariage par Renault ? L'entreprise s'interroge. Emmanuel Macron et les jeunes, un dialogue peut-il se nouer ? Débat cet après-midi en Bourgogne. Pécresse, Wauquiez, Bertrand, la bataille des colonels fait rage à droite. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Valérie Pécresse à l'offensive.
Oui, une lourde charge hier soir contre la ligne trop droite réac que voudrait imposer Laurent Wauquiez.
A tout à l'heure pour les détails. Des traces d'OGM dans des semences de colza en France. Semencier français qui importe d'Argentine, Sandy Dauphin nous racontera. La météo, bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est jeudi, c'est pluie à l'est Élodie.
Oui, alors on en a aussi un petit peu entre les Pyrénées et le Massif central et surtout de Rhône-Alpes jusqu'au nord-est en ce moment. Un peu de neige en montagne sur un vaste carnet. Ouest, Île-de-France comprise, des éclaircies. Plus timide tout de même près de la Manche avec un risque d'averse bien marqué et puis des températures douces, 6 à 16 degrés.
On vous retrouve à 13h30, Élodie Calac. Avance la parole de lecteur de l'UMA alors que le tribunal de commerce se prononce aujourd'hui sur l'avenir du journal de Jean Jaurès. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Quels sont les lieux où se raconte la société, ses impasses, ses évolutions ? Le tribunal est l'un de ces lieux. Au tribunal correctionnel de Paris, on débat depuis lundi de l'affaire Baupin. Et ce matin, la parole d'une femme, ancienne ministre, a pesé de tout son poids de silence enfin rompu. Printemps 2016, sur France Inter et Mediapart, 8 femmes, il y en aura 14 en tout, accusent Denis Baupin d'agression sexuelle. C'est alors une figure de l'écologie et de la gauche, vice-président de l'Assemblée nationale. Et ces révélations posent entre autres la question de l'omerta sur ces scandales dans le monde politique. Denis Baupin poursuit en diffamation Mediapart, France Inter et plusieurs des femmes qui ont témoigné. C'est dans ce cadre que l'on reparle cette semaine de l'affaire. Et donc, ce matin, un témoignage, pas n'importe lequel, Cécile Duflot, qui dit elle aussi avoir été victime de Denis Baupin. Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Bruno.
Vous avez suivi cette audience ce matin pour France Inter.
La voix cassée, Cécile Duflot parle vite, comme pour mieux contenir les sanglots. Elle raconte son entrée en politique en 2003, son ascension fulgurante, ministre en à peine 6 ans. Mais dès mon arrivée, précise-t-elle, on m'a prévenu de n'avoir aucun contact avec Denis Baupin. Et puis, un soir de 2008, au congrès mondial des Verts à Sao Paulo, on frappe à la porte de sa chambre, Denis Baupin. Il avait un regard bizarre, violent. Il a tenté de m'embrasser, il m'a touché le cou, il m'a dit « laisse-toi faire ». Je lui ai mis un grand coup de pied dans le tibia, j'étais paniqué, je ne sais même pas comment j'ai réussi à lui mettre ce coup de pied. Et les sanglots de Cécile Duflot la submergent un peu plus quand elle évoque le silence qui s'en est suivi, son silence, comme si de rien n'était, dit-elle. J'en ai parlé à personne. J'étais devenue une femme très solide, trop solide. J'ai manqué de compréhension, se souvient-elle encore, quand elle comprend que d'autres femmes autour d'elle sont victimes des mêmes comportements. Il m'est même arrivé de dire autour de moi qu'il était moins difficile de coucher avec lui que de résister. Ça faisait partie des comportements libertaires qui nous rendaient très complaisants avec la violence chez les Verts. On se disait que la capacité au rôle politique des femmes se transmettait par le sperme. On était dans le « faut vivre avec ». En 2016, elle parlera aux journalistes de Mediapart et de France Inter quand elle se rendra compte que d'autres femmes ont déjà témoigné. « Je m'en veux de ne pas l'avoir fait plus tôt », pleure l'ancienne ministre. Mais maintenant que c'est dit, les filles aujourd'hui sauront qu'elles n'auront plus à vivre ça.
Jean-Philippe Degnaud, en direct du tribunal de Paris pour France Inter, tribunal qui entendra toute la journée d'autres témoins qui devraient confirmer les accusations contre Denis Baupin. La grippe fera-t-elle un nombre de morts particulièrement important cette année ? Déjà 1100 depuis le début de l'hiver. Épidémie partout en France métropolitaine et outre-mer, les Antilles viennent de passer au stade épidémique. On est probablement au pic, dit la ministre de la Santé, qui ajoute cette particularité pour cette année. Le vaccin est moyennement efficace cette année. 2,5 circulent et sur l'un des deux, la couverture vaccinale est médiocre. Dans les services d'urgence, beaucoup de personnes âgées ou des enfants de moins de 5 ans et dans certains hôpitaux déjà sous tension, les délais d'attente s'allongent. Illustration à Châteauroux, Frédéric Denis.
Timéo serre fort son doudou sur sa poitrine. Le petit garçon est très pâle, 39 de fièvre. Sa maman, Monica, l'amène aux urgences à l'hôpital de Châteauroux.
Normalement, on voit un médecin, mais quand on appelle plusieurs médecins et que tous vous répondent qu'ils ne prennent pas de nouveaux patients, on se retrouve dans l'embarras.
Comme Monica, au moins 15 000 Indriens n'ont pas de médecin référent. Ils appellent donc l'association Urgence Médicale 36 ou les urgences de l'hôpital le plus proche. Mais en cette période de grippe, c'est la galère.
Des fois, on téléphone le matin et on a rendez-vous qu'à 22h, 23h le soir. Moi qui n'ai pas le permis, traverser tout Châteauroux pour avoir un rendez-vous à 22h30 et puis après chercher la pharmacie de garde et pouvoir se déplacer aussi, c'est impossible.
Eric, lui, se rend aux urgences de l'hôpital de Châteauroux sans rendez-vous.
C'est un peu dérangé dans le ventre depuis 2-3 jours. Mon docteur ne pouvait pas me recevoir, donc je viens là.
Vous savez combien de temps vous allez attendre là ?
Non, je ne sais pas, mais je pense que d'ici ce soir, on verra bien quoi. Bon, au cas où, j'ai pris un nécessaire de toilette.
À l'accueil des urgences, mardi soir, on annonçait jusqu'à 10 heures d'attente. Des patients engorgent les services, explique le docteur Pierre-Olivier Dutu de l'association Urgence Médicale 36, alors qu'ils auraient pu se soigner à la maison.
On voit des gens effectivement pour venir chercher à l'arrêt de travail, alors qu'en fait ils savent pertinemment eux-mêmes qu'avec une gastro-entérite ou qu'avec un syndrome grippal, ils auraient pu rester chez eux, patienter, prendre du paracétamol et puis rester chez eux.
Le docteur Dutu rappelle qu'il faut absolument composer le 15 quand on n'arrive pas à obtenir de rendez-vous avec un généraliste.
Et la grippe tue plus de 10 000 personnes chaque année, c'était 13 000 l'hiver dernier. L'actualité de la santé, c'est aussi sur franceinter.fr l'enquête de la cellule investigation de Radio France sur l'affaire des prothèses mammaires. Un modèle particulier à enveloppe texturée, marque Allergan. Est-ce qu'il joue un rôle dans la survenue de cancer des lymphomes dont ont été victimes 59 porteuses ces 10 dernières années? Des plaintes déposées hier à Paris pour mise en danger de la vie d'autrui, plainte ce matin à Marseille pour blessures involontaires et tromperies aggravées. L'agence de sécurité du médicament est accusée d'avoir traîné dans ce dossier. Elle lance une concertation publique sur la possible dangerosité de ces implants. L'affaire Carlos Ghosn à présent. Cette fois, ce n'est pas Nissan, mais Renault qui s'interroge sur le comportement de son ex-PDG. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
A-t-il fait payer son mariage grand luxe au château de Versailles par l'entreprise ? Renault veut signaler l'affaire à la justice, Maxime.
Oui, c'est par la voie d'un communiqué que Renault fait part de sa volonté de se mettre à disposition des autorités judiciaires. Il faut, pour comprendre, revenir plus de 2 ans en arrière, en octobre 2016. Carlos Ghosn célèbre son mariage en grande pompe. Au Grand Trianon, ça se passe donc à Versailles, au Grand Trianon, construit, voulu par Louis XIV, une telle location aussi prestigieuse, ce chiffre, il faut le savoir, à 50 000 euros. Mais Carlos Ghosn est alors patron de Renault et Renault a signé quelques mois auparavant une convention avec le château qui donne droit au constructeur à tout un tas de prestations, dont celle de disposer des installations à des fins professionnelles. Problème, un mariage est jusqu'à preuve du contraire privé et c'est une facture de l'agence organisatrice de l'événement qui refait surface aujourd'hui et qui pourrait sérieusement gêner Carlos Ghosn. Elle indique que la location du Trianon a été offerte par Versailles, un cadeau qui pourrait constituer dès lors un abus de bien social. Dans son communiqué, Renault précise que les éléments réunis jusqu'ici nécessitent que des vérifications supplémentaires soient menées.
Et le ministre de l'économie Bruno Le Maire plaide pour une transparence totale dans cette affaire et il ajoute à l'instant l'audit interne lancé par Renault commence à donner des résultats. Oui ou non, le gouvernement va-t-il augmenter de presque 6% les tarifs réglementés, tarifs bleus de l'électricité ? La commission de régulation de l'énergie va lui suggérer de le faire aujourd'hui et au nom de l'évolution du marché, en fait. En résumé, les prix de gros augmentent. Ceux affectés aux consommateurs doivent monter eux aussi. Le gouvernement, qui a promis aux Gilets jaunes notamment qu'il n'y aurait pas de hausse cet hiver, a 3 mois pour se décider. Alors, pour alimenter la réflexion, coup d'œil à ce qui se passe ailleurs en Europe. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Ailleurs en Europe, votre chronique chaque jeudi dans ce journal de 13h. Plus 6%, ce serait une très forte hausse. Hein. 85 euros en plus par an pour quelqu'un qui se chauffe à l'électricité. Ça grimpe aussi chez nos voisins en ce moment ?
Oui, les tarifs de l'électricité augmente partout en Europe et c'est un phénomène conjoncturel. Il est lié au prix de l'énergie sur les marchés de gros. C'est ce qui explique en France les 3/4 de l'augmentation des prix dans les prochains mois. On la ressent aussi en Allemagne, en Espagne et en Belgique.
Alors le président d'EDF dit régulièrement que l'électricité en France est l'une des moins chères en Europe. Est-ce que c'est vrai ?
Oui, même si ce n'est pas la moins chère d'Europe. Le prix pour 100 kWh facturé aux ménages est de 20 euros en moyenne dans l'Union européenne. C'est l'Institut des statistiques européens qui fait les comptes. En France, on est juste en dessous de cette moyenne, 17,5 euros toutes taxes comprises.
Il y a donc moins cher qu'en France.
Absolument. La France n'est que 17e sur 28, finalement. Le pays où le courant est le meilleur marché, c'est la Bulgarie, moins de 10 euros, devant la Hongrie, Chypre ou Malte, les pays d'Europe centrale et orientale. Et si l'on tient compte du pouvoir d'achat, eh bien les pays où l'on paie le moins cher sont la Finlande et les Pays-Bas.
Et les plus chers ?
Eh bien l'Allemagne, principalement, où le consommateur paye son électricité 3 fois plus cher qu'en Bulgarie. Idem au Danemark et en Belgique. Bref, ce sont les pays fondateurs de l'Europe qui tirent la moyenne vers le haut.
Alors c'est dû à quoi, Delphine ?
Eh bien au poids des taxes qui varient énormément d'un pays à l'autre. En France, les taxes et redevances sur l'électricité pèsent environ un tiers dans nos factures. En Allemagne et au Portugal, c'est la moitié. Et au Danemark, ça va jusqu'à 2/3, Bruno.
Mais qu'est-ce qui explique ces différences ?
Eh bien, les taxes financent dans plusieurs pays, notamment la transition énergétique. Et c'est particulièrement le cas au Danemark et en Allemagne. D'autant que Berlin a décidé de faire peser l'essentiel des coûts de son système électrique sur les particuliers pour ne pas pénaliser, c'est un choix, la santé de ces entreprises.
Comment ça se passe ailleurs en Europe ? La chronique de Delphine Simon chaque jeudi dans ce journal de 13h et sur franceinter.fr. Des milliards de tonnes de glace fondent chaque année sur la planète. Le phénomène s'accélère et ses conséquences sont de plus en plus alarmantes. Une série d'études en atteste en ce début d'année. Études publiées notamment dans la revue Nature. L'une de ses co-signataires est avec nous au téléphone. Bonjour Catherine Ritz.
Bonjour.
Spécialiste de l'Antarctique, directrice de recherche au CNRS à l'Institut des géosciences de Grenoble. C'est bien cela, la fonte des glaces s'accélère au Groenland et en Antarctique.
Oui, en effet, mais pas pour les mêmes raisons, en fait. Ouais.
Alors, commençons par l'Antarctique, parce qu'au fond, on a suivi de très près le Groenland toutes ces dernières années, et l'Antarctique peut-être un petit peu moins. Pourquoi les glaces fondent-elles ?
Ce qui se passe en Antarctique, c'est une accélération des glaciers qui donc envoie plus d'icebergs, plus de glace vers l'océan. Mmh. Et cette accélération est liée au fait que les plateformes flottantes qui sont tout autour de l'Antarctique et sur lesquelles débouchent les glaciers sont atteinte par le réchauffement de l'océan et ça mincisse à cause de ça. Ouais. Et du coup, ça enlève le frein sur les glaciers qui sont situés en amont.
Quelles conséquences ?
Les conséquences, c'est que la perte actuelle de la glace en Antarctique est engagée et que ça risque de se prolonger pendant très longtemps.
L'étude, une des études, parce qu'il y en a plusieurs hein, sur ce thème-là publié, parle de chaos climatique possible. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Alors, c'est l'ensemble du système Terre là, qui est en cause. Mm-hmm. C'est si le Groenland fond, il risque d'envoyer de l'eau douce dans l'océan, de changer la circulation océanique, qui à ce moment-là enverrait la chaleur, parce que la chaleur, elle arrivera de toute façon, enverrait la chaleur vers l'Antarctique et augmenterait ce processus de déstabilisation de l'Antarctique.
Est-ce qu'il y a, Madame Ritz, un point de basculement, au fond un point de non-retour, et ce serait quoi ? Est-ce qu'il y a un moment où on ne pourra plus revenir en arrière ?
Ah oui, oui, clairement. Les deux calottes, et toujours pour des raisons différentes, ont un point de non-retour vers 2 degrés au-dessus du pré-industriel.
On y est ou pas encore ?
Ce qui veut dire, on est à 1,2 ou quelque chose comme ça, 1,5. Ce qui veut dire qu'on est très proche de ce point de non-retour. Par contre, ça peut mettre longtemps avant que la déstabilisation prenne complètement effet. Mais longtemps avec le même climat, c'est ce qui est nécessaire. Mais oui, effectivement, il y a un point de basculement.
Madame Ritz, question de Sandy Dauphin, spécialiste des questions d'environnement à France Inter.
Bonjour. Quelles sont les conséquences sur la montée du niveau de la mer de ces fontes des calottes ?
Alors pour l'instant, relativement limité. Ça participe pour un peu plus d'un tiers, entre un tiers et la moitié, de la montée du niveau des mers, parce qu'il y a aussi la fonte des glaciers, y compris ceux de l'Himalaya, l'expansion thermique de l'océan. Mais sur le long terme, c'est la plus grosse contribution qui est à attendre à l'échelle des siècles à venir. Et la plus grosse incertitude vient de l'Antarctique.
Et ce qu'il faut souligner, c'est que sur le long terme, on ne parle pas en centimètres, on parle en mètres de hausse de niveau des mers.
Ah oui, à terme, la déstabilisation dans l'Antarctique de l'Ouest provoque à peu près 2-3 mètres de montée du niveau des mers. Après, le temps, les différents scientifiques sont un peu en désaccord sur le temps qu'il faut pour atteindre cet état, entre quelques siècles pour certains et un millénaire, deux millénaires pour d'autres. Mais par contre, en termes de durée de la civilisation, c'est clair que c'est un point très important.
Madame Ritz, que dites-vous, les spécialistes qui décrivez tout cela depuis plusieurs années et même plusieurs décennies de la catastrophe climatique qui est en train d'arriver? Tout se confirme, tout se met en place et rien ne change, ou en tout cas apparemment rien ne change. Il doit y avoir une forme de désespoir de votre côté.
Il y a une forme de, peut-être pas de désespoir, mais de désillusion.
Oui.
Une partie des problèmes qui commence à se tasser un peu en ce moment, c'est le côté, le fait que beaucoup de gens maintenant ne croient plus les experts.
Oui.
Et donc ça, c'est une vraie question. Et puis oui, clairement, quand on voit les accords de Paris qui sont à peine capables d'éviter un emballement, on peut, et que personne ne les suit, ou quasiment personne ne les suit, c'est inquiétant.
Merci Catherine Ritz d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions, et vous êtes donc co-signataire de cette étude parue dans Nature, alors que l'ONU confirme ce dont on a déjà parlé sur l'antenne de France Inter, que les quatre dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Le Brexit à présent, et Theresa May à Bruxelles aujourd'hui. La date du Brexit, théoriquement, c'est dans 50 jours, et le climat, là, est de plus en plus infernal, glacial aussi, entre Grande-Bretagne et continent. Chacun attend de l'autre des concessions qui ne viennent pas, sur l'Irlande en particulier. La première Britannique rencontrait ce matin le président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Bonjour Angélique Boin.
Bonjour.
Correspondante de France Inter à Bruxelles. De nouvelles discussions vont avoir lieu entre Britanniques et Européens?
Oui, on l'a appris il y a quelques minutes, les échanges de ce matin entre la première ministre britannique et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, auraient été constructifs, puisque de nouvelles rencontres sont à l'agenda avant la fin du mois, annonce la Commission. Malgré les difficultés, les deux dirigeants sont convenus que leurs équipes doivent discuter pour savoir, dit le communiqué, s'il est possible de trouver une solution qui recueillerait à la fois une majorité au Parlement et respecterait les conditions fixées par les 27. On apprend également que Michel Barnier, le négociateur en chef, rencontrera la semaine prochaine le secrétaire britannique au Brexit, Stephen Barclay. Petite lueur d'espoir, donc, après les tensions assez palpables dont vous parliez ces derniers jours. On avait senti la fatigue, de l'agacement même, de la part du président du Conseil européen, Donald Tusk. Sa petite phrase hier sur l'enfer qui pourrait accueillir ceux qui ont promu le Brexit sans en mesurer les conséquences a fait polémique outre-Manche. Donald Tusk, qui va rencontrer Theresa May en ce début d'après-midi. Va-t-on sortir du dialogue de sourds? Rappelons que Theresa May est arrivée avec la ferme intention de revoir l'accord sur ce fameux filet de sécurité qui doit éviter le retour d'une frontière dure en Irlande. Les 27 refusent. Un compromis a-t-il été ébauché? Eh bien, on n'a pas d'informations à ce stade. Suite donc au prochain épisode, Bruno.
Et on note ces tout petits mouvements. Merci Angélique Boin sur ces négociations à propos du Brexit. Nous restons à Bruxelles pour une toute autre raison, pour parler d'un homme tueur, terroriste et bourreau présumé. C'est Mehdi Nemmouche, procès en ce moment dans la capitale belge de celui qui est accusé, enquête accablante pour lui, d'être l'auteur de l'attentat contre le musée juif de la ville. Ce matin, deux témoins, deux journalistes français, anciens otages en Syrie, Nicolas Hénin et Didier François. Corinne Audouin, vous suivez ce procès pour France Inter, les deux sont formels. Nemmouche était l'un de leurs geôliers.
Je n'ai absolument aucun doute, dit Nicolas Hénin. Mehdi Nemmouche, ici présent dans le box, était mon geôlier et mon tortionnaire en Syrie sous le nom d'Abou Omar. Les deux journalistes sont assis à une table face à la cour. Didier François renchérit. Il a reconnu, dès son arrestation en 2014, les termes qu'il emploie, sa façon de s'exprimer, son attitude. La présidente de la cour rappelle que Mehdi Nemmouche est présumé innocent. Ceci posé, les ex-otages racontent 6 mois de détention avec Abou Omar dans un ex-hôpital d'Alep, puis dans une menuiserie abandonnée. Les interrogatoires, Nicolas Hénin raconte un coup à chaque fois qu'il ne répond pas. C'est Abou Omar qui frappe, le nez en sang, les côtes cassées. L'homme lui montre ses gants renforcés, fait craquer ses doigts. « Je les ai achetés pour toi », dit-il. Ils décrivent un homme sadique dont la violence et la haine débordent. Son héros, c'était Mohamed Merah, relate Didier François. Il disait qu'il voulait attraper une petite juive de 4 ans par les couettes pour la fumer. Mais Abou Omar, c'est un personnage complexe, dit aussi Didier François, joueur narcissique qui fredonne le générique de Faites entrer l'accusé, imagine son procès à venir. Il m'appelait en chantant mon petit Didier. Dans le box pour la première fois, Mehdi Nemmouche sourit. « Il s'en souvient !» s'exclame Nicolas Hénin. Mais l'accusé reste muet, refuse de dire s'il connaît les journalistes. « À l'époque, il assumait, » dit Nicolas Hénin. « Pas aujourd'hui, j'y vois une grande lâcheté. » À Bruxelles, Corinne Audouin, France Inter.
Une critique de plus pour Facebook. En Allemagne, le gendarme de la concurrence demande à l'entreprise américaine d'aménager ses règles pour protéger davantage les données personnelles de ses clients. En France, des gilets jaunes ou gilets jeunes. Les jeunes peu actifs jusque-là dans le débat à travers la France. Le gouvernement essaye de les impliquer. Le président de la République se déplace une nouvelle fois en province, cet après-midi en Saône-et-Loire, dans le Morvan précisément, pour débattre et spécifiquement avec des jeunes cette fois-ci. Qu'ont-ils à lui dire? Parmi ses interlocuteurs, à partir de 15h, dans un peu plus d'une heure et demie, il y aura les apprentis du centre Jean Lameloise de Mercurey. Ils travaillent dans les métiers de bouche, le commerce ou la photographie. Voici Roman, Théo et d'abord Cédric qui veut parler de mobilité avec le président de la République.
Pour ma part, la mobilité, ça me touche personnellement parce que j'ai plus de 2 heures de route pour venir chaque lundi et pour repartir chaque vendredi. Donc c'est un peu un frein, on va dire. Le coût du transport, le temps, ça joue aussi sur nous.
Moi, je demanderais d'aider les patrons aussi. Si nous, en tant que jeunes, ils n'aient pas du mal à nous dire oui si on a besoin d'un contrat avec eux. Enfin, je ne veux pas qu'ils nous disent non parce que c'est trop cher et c'est dommage, je trouve.
Moi, c'est juste pour savoir pourquoi on n'est pas rémunéré comme les employés normaux en tant qu'apprenti. Quand on voit que les employés sont plus payés que les apprentis, qu'alors ils font le même travail que eux et font 35 heures pareil, ça fait un peu bizarre.
Et la rencontre, c'est donc cet après-midi à partir de 15h à Étang-sur-Arroux, près d'Autun. Et à droite, le grand parti de droite va-t-il tomber aussi bas dans les sondages et les votes que le parti socialiste? On n'en est pas là, mais pour les Républicains, les sondages ne décollent pas à moins de 4 mois des européennes et le leadership de Laurent Wauquiez est déjà bien fragile. L'une de ses adversaires, Valérie Pécresse, durcit le ton dès ce mois de février. Élodie Forêt, Valérie Pécresse qui était en meeting hier soir à Paris.
Oui, et qui a tenu une charge lourde sans être nominative, Valérie Pécresse, dans son discours de vœux aux adhérents de son mouvement libre, s'est bien gardée de prononcer une seule fois le nom de Laurent Wauquiez ou celui de la tête de liste François-Xavier Bellamy. Selon un conseiller, ce ne sont pas les personnes, mais bien le choix de la ligne politique trop conservatrice qu'elle fustige. Notre France ne sera jamais celle d'Éric Zemmour, ni des déclinistes nostalgiques d'une société patriarcale, a-t-elle lancé, dans une allusion à la récente réception du polémiste au siège des LR, un épisode qui l'a particulièrement choqué, nous dit son entourage. Mais plus inquiétant encore pour Valérie Pécresse, ce sont ses déviances, cet éloignement de ce que devrait être, selon elle, une ligne européenne de droite. Sur le Brexit, notamment, la présidente de la région Île-de-France rappelle qu'il ne peut y avoir qu'un Brexit dur. Elle a d'ailleurs laissé un mot en ce sens à François-Xavier Bellamy, qui, dans une interview, avait appelé à une renégociation. La présidente de la région Île-de-France, qui entend donc peser malgré le verrouillage du parti que ses lieutenants dénoncent, peser sur un programme qui sera tout ou en partie dévoilé le 16 mars prochain lors du Conseil national à Villeurbanne.
On ne trouvera plus d'autres corps dans l'immeuble de la rue Erlanger à Paris. Les pompiers en sont certains. Les opérations de reconnaissance sont terminées. Le bilan de cet incendie, près de 3 jours après, est de 10 morts et 96 blessés. 300 producteurs de colza français obligés de détruire leurs parcelles. Des traces d'OGM ont été découvertes dans les semences. C'est évidemment contraire aux règles en vigueur. Et est en cause un semencier français qui a fait venir ces produits d'Argentine. Sandy Dauphin, on vous retrouve. Évidemment, les producteurs se sentent floués, Sandy.
Oui, 8000 hectares ont été semés avec ces graines importées par le semencier français Delcab du groupe Bayer Monsanto. Même si les taux de contamination aux OGM sont très faibles, 0,005%, il faut détruire les parcelles. Alors, comment expliquer que les contrôles n'aient pas eu lieu plus tôt, avant la commercialisation des semences? Question posée par Arnaud Rousseau, producteur de colza et président de la Fédération d'oléagineux et protéagineux.
Ce qui me choque, moi, c'est que le contrôle ait lieu a posteriori. Vous savez, pour un agriculteur, quand vous vous êtes éreinté à préparer votre terre, la semer, l'entretenir, et que finalement, à la moitié de la saison, on vous demande de tout détruire, c'est pas une bonne nouvelle.
Alors, au-delà de cet incident, la filière dénonce l'incohérence, pour ne pas dire l'hypocrisie, autour des OGM. Les semis de colza transgénique sont interdits, mais pas les importations de produits contenant des OGM, que ce soit pour l'alimentation du bétail, les biocarburants dans nos voitures, et même pour nos assiettes, à condition d'être étiqueté. Arnaud Rousseau.
Moi, en tant que producteur, on m'interdit la production d'OGM, mais on en importe tous les jours dans tous les ports européens et les consommateurs en consomment tous les jours dans leurs repas. Donc nous, on a toujours eu le même discours. On dit, il faut de la cohérence. Soit on considère que c'est un problème, et dans ce cas-là, on les interdit, et c'est ce qui est fait en production, mais on n'en consomme pas, soit on se met en cohérence.
De son côté, le syndicat agricole Coordination Rurale accuse les autorités d'avoir trop tardé entre la découverte des semences contaminées en octobre dernier et l'information aux agriculteurs.
L'Humanité Stop ou encore le quotidien de Jaurès est en cessation de paiement. Audience aujourd'hui au tribunal de commerce. Pas de résultat pour l'instant. En attendant ces résultats, parole de lecteur de l'UMA, ce journal qui est plus qu'un journal. C'est à Saint-Nazaire avec Anne Patinec.
Quand Gérard Rastel a commencé à vendre l'Humanité dimanche avec ses camarades communistes en 1963 dans sa cité de Kerlédé, ils écoulaient chaque semaine une centaine de numéros pour 250 habitants. Dimanche dernier, sur le marché de Saint-Nazaire, le septuagénaire en a vendu une vingtaine, mais n'avait pas assez d'exemplaires pour répondre à la demande. La mobilisation autour du quotidien est sensible et le retraité espère que son journal va continuer à exister.
Le journal de Jaurès, c'est quand même un journal qui porte dans l'histoire du pays. Et il y a des réactions qui, aujourd'hui, y compris des députés de la République en marche qui disaient « il faut que le journal vive ». Mais après, il faut prendre la décision au gouvernement pour donner les moyens que ce journal vive.
Gérard Rastel n'a pas fait d'études. Il dit avoir beaucoup appris au travers des pages de l'Humanité.
C'est un journal qui permet une certaine éducation et qui parle des vrais problèmes des gens, les problèmes de logement, les problèmes de la paix. Un journal qui permet une élévation du débat dans la vie politique. C'est quand même un des journaux où l'argent n'est pas l'influence qui domine la rédaction.
Et dans une pièce de sa maison, le retraité a accroché un cadre, cadeau de ses amis, qui résume une grande partie de sa vie. C'est une affiche représentant une de l'Humanité.
Quelques frictions pour finir ce journal. Friction, c'est le titre du spectacle présenté en ce moment par les étudiants du Centre National des Arts du Cirque, l'une des plus grandes écoles de cirque au monde. Ils sont encore étudiants, mais déjà très forts, Stéphane Capron.
Un vent de fraternité souffle pendant tout le spectacle. Avant de débuter, les circassiens sont regroupés sous une bâche en plastique. Collés les uns contre les autres, ils font la fête. Un esprit de solidarité présent pendant tous les numéros. Tanguy Pelayo fait de l'acrobatie, catapulté par une bascule coréenne. Avec ses camarades, ils n'ont pas le droit à l'erreur.
En plus d'avoir la tête qui tourne un peu de partout, c'est une planche en bois, quoi. Donc c'est assez risqué et bien sûr que la confiance entre chacun doit être nickel. On doit se connaître un maximum et ça s'apprend beaucoup de temps. Je pense qu'on a commencé à arrêter de tomber en spectacle à partir de 3 ans, 4 ans de travail ensemble.
Aucune fausse note non plus pour Noémie Demier. Le cirque, c'est son rêve depuis qu'elle est toute petite dans Friction. Elle réalise de véritables prouesses techniques perchées sur des tissus.
Je pourrais m'accrocher directement dans le grill, mais du coup, j'ai choisi de travailler avec mes camarades sur des suspensions. Et donc, du coup, ils tirent en fait sur la corde où est attaché mon tissu pour me donner un envol assez conséquent, là, pour le coup. Et du coup, ça me donne des impulsions pour faire des figures un peu irréalisables.
La poésie est au rendez-vous de Friction qui célèbre le vivre ensemble. Il faut juste enlever les séquences parlées, un peu envahissantes et qui parasitent la beauté du spectacle.
Et c'est à la Villette à Paris jusqu'au 17 février.
La météo avec Bleu Forêt. Le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac.
Des Pyrénées vers le Massif central, Rhône-Alpes, l'est de la Lorraine et l'Alsace, beaucoup de nuages, quelques pluies, un peu de neige en montagne vers 1100-1300 mètres. Autour de la Méditerranée, le soleil est voilé, le vent de nord-ouest est bien présent. Entre l'océan, le centre, la région parisienne, le nord, l'ouest de la Lorraine, le ciel est changeant avec des éclaircies, des nuages aussi, quelques averses. Nuages et averses sont d'ailleurs plus nombreux de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais avec en prime un vent d'ouest marqué. Les températures sont douces, 6 à 8 degrés sur le nord-est, mais 9 à 13 degrés ailleurs, jusqu'à 13 à 16 autour de la Méditerranée. Demain, ce sera encore doux, souvent très nuageux, avec un petit peu de pluie et du vent du nord-ouest à la frontière belge.